Cora Andrieux, bonjour.
Bonjour.
Cette instance de vérité et de dignité, est-ce que c'est un gadget ou est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose?
Ça peut être les deux à la fois. Ça dépendra vraiment de l'indépendance qu'elle saura garder. Parce que le problème dans beaucoup d'autres pays, c'est que très souvent, les commissions de vérité peuvent être instrumentalisées politiquement. Ça a été le cas au Maroc, ça a été le cas aussi d'une certaine manière en Afrique du Sud. Ou alors, elles sont juste de simples jouets qui n'ont aucun pouvoir.
Une fois les victimes du régime Ben Ali identifiées, cette instance devra débusquer les coupables et les faire traduire en justice. Mais qu'est-ce qui garantit aux victimes que cette justice suivra?
C'est pas déjà une rectificative, c'est pas que les victimes de Ben Ali, c'est aussi les victimes de Bourguiba, puisque l'instance vérité aura un mandat qui commence en 55, donc même avant l'indépendance, qui peut aussi d'ailleurs inclure des crimes qui auraient été commis par la France. Je pense par exemple aussi à l'évacuation de Bizerte. L'autre chose que je veux préciser, c'est que le travail de l'instance vérité n'est pas strictement judiciaire. Par contre, effectivement, elle peut transmettre certains dossiers de violations les plus graves, torture, viol, exécution arbitraire, etc., à des chambres spécialisées qui sont en train d'être créées en même temps au sein des tribunaux tunisiens.
Est-ce que ce sera une instance de blanchiment ou au contraire une instance de vérité et de justice?
C'est les deux en fait. Vous avez raison de le souligner puisque l'instance vérité a aussi en son sein un comité d'arbitrage et de réconciliation. Ce comité, il est un petit peu inspiré de l'Afrique du Sud, du modèle de la commission sud-africaine, puisqu'en fait le principe c'est que les responsables, donc les tortionnaires ou les hommes corrompus, les hommes d'affaires corrompus, pourront faire une demande auprès de ce comité d'arbitrage, une demande de repentance, et s'ils disent toute la vérité sur ce qu'ils ont fait, s'ils demandent pardon et si la victime accepte, alors ils auront une forme d'amnistie ou de clémence, c'est-à-dire qu'on révisera leur sentence à la baisse. Donc il y a cette idée que pour avoir la vérité, il faut peut-être aussi renoncer à une forme de justice pénale.
Un petit peu comme en Afrique du Sud.
Exactement. La seule différence, c'est que pour les violations les plus graves, torture, exécution, disparition forcée, vu que le droit international pénal a beaucoup évolué quand même depuis la Commission sud-africaine, qui est en 95, ce serait plus accepté aujourd'hui, surtout que la Tunisie a ratifié beaucoup de traités internationaux, notamment la Convention contre la torture, qui l'empêche d'amnistier ses crimes. Donc à la place, le stratagème un peu qui a été trouvé, c'était de donner une clémence.
Il ne suffira pas d'avouer son crime pour être pardonné.
Non, il faudra aussi que la victime accepte. Et il faudra qu'il dévoile aussi vraiment toute la vérité sur, en particulier dans le cas des crimes économiques, où sont les avoirs qu'il a spoliés. C'est un grand débat en Tunisie, c'est le retour des avoirs spoliés, et notamment l'idée que ça pourrait éventuellement financer les programmes de réparation. Et ce fonds des victimes de la tyrannie devra fournir des réparations financières et symboliques pour toutes les victimes.
Le mois dernier, deux hommes clés de la répression sous le régime Ben Ali, l'ancien directeur de la sécurité présidentielle Ali Seriati et l'ancien ministre de l'Intérieur Rafik Belhadj Kassem ont été relâchés après 3 ans de prison, ce qui a choqué beaucoup de gens à Tunis. Est-ce que cette instance, vérité et dignité, pourra demander qu'ils soient rejugés?
C'est un grand débat en ce moment en Tunisie, cette question. Il y a beaucoup une grande demande populaire et au niveau des politiciens aussi de transférer sous ces dossiers des tribunaux militaires, puisque vous savez que c'est les tribunaux militaires qui ont jugé tous les dossiers des victimes de la Révolution, vers les tribunaux civils. De fait, a priori, ce sera possible, puisque ces chambres spécialisées dont je vous parlais tout à l'heure ont une juridiction qui couvre tous les crimes depuis 55. Sauf qu'il y a un principe de droit quand même fondamental et un principe constitutionnel qui veut qu'on ne peut pas juger une personne 2 fois pour le même crime, ce qui va poser des difficultés, je pense.
Alors vous citez beaucoup l'exemple sud-africain. Il y en a un autre, c'est l'exemple ivoirien. En 2011 a été créée la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation qui est présidée par Charles Konan Bani. Est-ce que pour vous c'est un modèle ou pas?
Non, c'est même le contre-modèle qu'on utilise souvent la Côte d'Ivoire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la Tunisie a vraiment un petit peu appris les leçons de cet échec. Quand je parle d'échec, c'est essentiellement au niveau de l'absence de consultation dans le processus ivoirien. C'est-à-dire que la commission ivoirienne a été créée presque du jour au lendemain. Les membres, et notamment, vous l'avez dit, le président Bani a été nommé par décret unilatéral du président. Et du coup, il y a eu un manque de consensus, un manque de légitimité aussi vis-à-vis de ses membres. Pour parer à ça, la Tunisie, au contraire, a adopté dès le début, depuis 2012, un processus de dialogue national, de consultation nationale, que nous, en tant que Nations Unies, on a suivi, où on a été dans toutes les régions pour recueillir un peu les attentes des victimes, qu'est-ce qu'elles veulent dans cette commission de vérité, etc. Pour éviter, au contraire, cette impression qu'il y a eu en Côte d'Ivoire d'une instance qui est parachutée et qui serait, du coup, l'instrument du pouvoir en place.
Une sorte de vitrine du régime?
Voilà, c'est souvent le problème avec ces commissions de vérité, parce que ça coûte rien en soi pour le pouvoir, et c'est joli. Donc c'est un peu le risque. Je pense, quand je dis ça, je pense au cas du Maroc, qui est aussi souvent cité en Tunisie, où il y a eu beaucoup d'apports du cas marocain, mais en même temps, c'était un petit peu une façade, puisqu'il n'y a pas eu de transition. On parle de justice transitionnelle sans transition. Et aussi parce que c'est une commission de vérité où on n'avait pas le droit de nommer les responsables. Donc aucune responsabilité n'a été établie. Donc c'est un petit peu le danger, que ça soit juste une justice de façade, et on espère qu'en Tunisie, ça ne sera pas le cas. Heureusement, l'instance vérité et dignité tunisienne a des grands pouvoirs, très larges pouvoirs, notamment un accès aux archives presque illimité. Elle a le pouvoir de forcer à comparaître. Elle a le pouvoir de saisir des biens. Donc peut-être que ça, ces moyens-là qui lui sont conférés par la loi, lui permettront d'avoir une vraie autonomie.
Cora Andrieux, merci.